Bien, donc bonjour à tout le monde. Bienvenue donc à la librairie Mola. Bonjour Fatou Diomé.
Bonjour.
Bienvenue à Bordeaux, à la librairie Mola, donc où vous nous présentez aujourd'hui votre dernier ouvrage, Celles qui attendent. Donc j'avais pensé effectivement que vos mots présenteraient beaucoup mieux les femmes dont vous vous faites la messagère dans votre livre, puisque vous revenez dans ce livre vers la terre d'Afrique, donc qui vous a vu naître, comme vous l'avez écrit, au premier jour de l'hivernage et l'année où les étudiants ont saccagé la capitale. Et cette fois-ci, vous vous placez du côté de celles qui restent au pays et qui concentrent à la fois les angoisses, mais aussi l'espoir fou, en fait, qu'engendre le départ vers l'Europe. Donc, est-ce que ça vous ennuierait de nous lire les deux premières pages de votre livre pour nous balancer donc, dans l'atmosphère de ce roman ?
Hop là, je vais essayer. Bonjour, je lis mieux les livres des autres, hein, donc je vais essayer avec le mien. Ce sera votre faute.
Voilà, je prendrai tout sur moi.
Alors, je ne saute jamais la dédicace, donc. À ma grand-mère, un jour, tu m'as dit, n'oublie pas de lever les yeux. Pendant l'attente, nos yeux se croisent sur le même soleil, sur la même lune. Depuis, je te sens toujours près de moi, alors, n'oublie pas, ton sourire est le plus beau cap de ma navigation. Ça, c'est pour mon adorable mamie. Aram Bounia Kumba, Daba, mère et épouse de clandestins, portée jusqu'au fond des pupilles, des rêves gelés, des fleurs d'espoir flétries, et l'angoisse permanente d'un deuil hypothétique, mais quand le rossignol chante, nul ne se doute du poids de son cœur. Longtemps, leur dignité rendit leur fardeau invisible. Tous les suppliciés ne hurlent pas. Silence. En pays guéloir, on sait se taire avec l'obstination d'un chasseur à l'affût. Et si la mutité n'est pas gage de courage, elle en donne au moins l'apparence. L'orgueil est parfois une tenue d'apparat. L'on ne fera jamais les traînes assez longues tant les égratignures à couvrir sont nombreuses. Dentelle. Qu'on nous jette de la dentelle là où la peau ne compte que des trous, l'illusion sera parfaite. Il y a tant de couchers de soleil qu'on apprécie moins pour leur beauté que parce qu'ils nous sauvent de l'acuité du regard inquisiteur. Rideau, que les rideaux soient opaques, n'est jamais un fait du hasard. Les furoncles s'accommodent mieux de l'ombre. Mère et épouse d'aventuriers, Aram et Bounia ne cachaient rien. Elles couvaient tout comme le flamant rose son œuf. Certes, les chimères persistaient à danser derrière leurs paupières, mais une mine maussade trahissait par moments la sourde frayeur qui les habitait. Comment aurait-elle pu décrire cela sans sombrer dans l'abîme du désespoir? À qui confier cela? Quand de nombreuses demoiselles prennent la demande en mariage d'un immigrant pour une bénédiction et que la plupart des mères désirent ardemment voir leur propre fils partir vers l'Europe. Silence. On ne parle pas quand on sème des songes et lorsqu'on récolte de l'or, on le crie rarement sur les toits. Silence. Certaines peines valent de l'or, dit-on, lorsque leur cause est jugée noble. Or, dans ce terroir du Sin Saloum, tout est noblesse. Mille légendes ne sauraient partir du vide. Le sable est encore chaud là où Boursine Koumbando-Fen Diouf installait son illustre trône. Le sable du Sénégal est encore rouge du sang des princes guéloirs qui se laissaient exécuter en silence, opposant ainsi leur dernière fierté à ceux de leurs ennemis qui avaient l'exceptionnelle chance de ne pas périr sous leur glaive. Silence. Dans le Sin Saloum, les princes savaient se faire obéir d'un regard ou d'un geste discret et ont pardonné mille caprices aux princesses. Elles pouvaient, selon leur humeur, anoblir une servante exemplaire, décapiter un sujet pour une révérence tardive, embastiller un prince étranger par amour et engager le royaume dans de ruineuses noces, mais aucune d'elles n'avait droit aux Jérémiades. Car si la parole faisait loi, son abus était l'apanage des faibles. Alors aujourd'hui, même si la République loquace s'époumonne à tort et à travers, les héritières de Koumbando Fendiouf se souviennent toujours de la meilleure des armures, le silence. Quand dire ne sert plus à rien, le silence est une ouate offerte à l'esprit. Pause. On peut prier en silence et le diable ne répétera jamais ce qu'il n'a pas entendu. Allô, c'est le pape. Perdre un enfant, toutes les femmes peuvent se l'imaginer, même celles qui n'ont jamais enfanté. Mais comment dépeindre la peine d'une mère qui attend son enfant sans jamais être certaine de le revoir? Les veuves, on les plaint, on les cajole, on les entoure de compassion. Mais comment s'avouer veuve et pleurer quand on n'a enterré personne? Les mères et épouses de clandestins ne se confiaient pas, pas facilement, pas à n'importe qui. Elles étaient silencieuses comme des sources taries. Il fallait creuser, longtemps creuser, ou attendre qu'un motif improbable fende leur carapace et fasse jaillir la parole. Alors, échappées d'elles-mêmes, elles parlaient, ruminaient, discouraient et ne s'arrêtaient plus, car leur inquiétude était infinie et plus impétueuse qu'une crue d'hivernage. À Rambounia, Koumba Daba, des mères et des épouses de clandestins comme tant d'autres, toutes différentes, mais toutes prises dans le même filet de l'existence, à se débattre de toutes leurs forces. Chacune était la sentinelle vouée et dévouée à la sauvegarde des siens, le pilier qui tenait la demeure sur les galeries creusées par l'absence. Outre leur rôle d'épouse et de mère, elle devait souvent combler les défaillances du père, remplacer le fils prodigue et incarner toute l'espérance des leurs.
Merci beaucoup. Je pense que je...
Si vous êtes déprimé, il y a du Prozac en France.
Non, il ne faut pas dire ça. Il y a beaucoup de lumière aussi. Alors, je voulais lire ce passage, et vous l'avez lu beaucoup mieux que je ne l'aurais fait, parce que par rapport à ce mot de silence qui revient, et pour savoir si votre écriture à vous, si le fait de vous lancer dans l'écriture qui vous a appelé depuis toujours, c'est justement lutter contre ce silence, un peu comme si vous étiez une guerrière et que votre écriture était votre arme suprême.
Une guerrière ou plutôt... Si je suis une guerrière, je suis vraiment une guerrière impuissante. Parce que je dis toujours, j'écris par impuissance. J'écris parce que je n'ai pas la baguette magique pour changer les choses. Mais ma sensibilité me fait souffrir devant certaines situations. Et donc, ces questions-là m'habitent. Et oui, alors j'écris pour ne pas me taire avec les choses parce que je n'ai peut-être pas la force de les garder en moi. Et c'est vrai qu'au début, quand j'avais 13 ans, que j'ai commencé à écrire, c'était une prise de parole. Puisque les adultes, parfois, ne nous écoutent même pas. Donc, au moins, mon cahier, il pouvait écouter.
Et c'est un peu pour libérer aussi un trop-plein que vous avez en vous, parce que vous disiez dans un de vos ouvrages précédents que vos mots étaient trop étroits pour porter les mots M-A-U-X de l'exil.
Donc, oui.
C'est vous faire le porte-parole et en même temps libérer quelque chose que vous portez vous-même.
Oui. Par exemple, je n'écris jamais de lettres. Je passe ma vie à écrire, mais je ne sais pas écrire de lettres. Parce que les mots O-T-S sont parfois très restreints, trop étroits pour mettre tout ce qu'on a dans le cœur. Et ce que je raconte dans mes livres, si je voulais le raconter à une copine ou à ma sœur, elle n'aurait jamais la patience de m'écouter jusqu'au bout. Donc, on écrit pour prendre le temps de la réflexion. Une chose que quelqu'un peut trouver insignifiante dans la vie peut traumatiser quelqu'un d'autre. L'écriture permet de légitimer cela et de s'y pencher. C'est une acceptation de sa faiblesse aussi.
Et en fait, vous dites que vous êtes une guerrière impuissante, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que justement, quand on vous lit, je trouve que par votre écriture, vous donnez à comprendre des choses que, par ailleurs, on passerait dessus à une époque où on montre plus facilement du doigt sans essayer de voir ce qu'il y a derrière. Alors que là, dans ce livre et dans ceux qui ont précédé, où vous parliez déjà de l'Afrique... On comprend qu'il y a ce paradoxe, que c'est difficile finalement, autant du côté de celui qui est parti que de celui qui reste, et qu'il y a ce malentendu entre l'espoir que suscite le départ et la réalité des humiliations finalement pour celui qui arrive.
Oui, parce que les gens qui rêvent là-bas, qui veulent venir, ils ne veulent pas voir les tragédies européennes, ils ne veulent pas voir les difficultés de vivre, tout simplement. Ils ne voient pas les délocalisations ou les licenciements de masse. Ils ne voient pas tout ça. Donc, ils ont le rêve. C'est un peu comme la Star Academy. Les gens veulent se réveiller Michael Jackson ou Madonna, même s'ils ne savent pas chanter ou danser. Ils pensent que c'est possible. Ils tentent le coup. Et donc, ils n'ont pas envie de voir, même si les immigrés de retour veulent leur raconter, ils veulent tenter leur chance pour vivre l'expérience eux-mêmes. Et puis, c'est pareil en Europe. C'est clair que quand on a envie de rapatrier les immigrés sans état d'âme, on a plutôt intérêt, ne serait-ce que psychologiquement, à ne pas savoir qu'est-ce qui les pousse à partir. Comment sont-ils venus? Pourquoi sont-ils venus? Parce que savoir ces raisons-là, c'est avoir des états d'âme, c'est se sentir un peu mal à l'aise, c'est comprendre le déséquilibre de l'économie mondiale. Et il y a une part d'humanité qui va entrer en jeu et qui va rendre l'application de la décision politique beaucoup plus difficile. Et donc, pour moi, faire ce livre, c'est mettre la passerelle entre l'Afrique et l'Europe et dire « je regarde des deux côtés ». Voilà ce que j'ai vu. Et on réfléchit là-dessus, si vous voulez bien.
Et est-ce que vous pensez que vous auriez pu justement écrire ça si vous étiez resté? Est-ce que ce n'est pas le recul de celle qui n'y est plus qui permet justement de pouvoir à la fois, comme vous dites, vous êtes vous ici, mais vous là-bas. Donc vous avez tantôt l'identité d'un côté, tantôt l'identité de l'autre. Et du coup, comme un miroir à chaque fois. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu écrire, si vous étiez resté là-bas, vous auriez écrit la même chose?
En fait, tout ce que j'écris, je pense que rien ne serait possible sans ma double appartenance. Tout ce que j'écris, hein, depuis le premier livre jusqu'à maintenant. Moi, Fatoula sénégalaise 100%, je ne connais pas. Fatoula française au chocolat, je ne connais pas. J'ai une mixture dans ma tête qui est franco-sénégalaise. C'est ma terre d'origine, ma terre d'accueil. Tout ce que j'ai pu apprendre des deux côtés se mélange. Quand j'écris, il n'y a pas Fatoula sénégalaise qui demande le droit pour prendre la parole et Fatoula française qui va décider telle chose. Même si ça arrange certains Sénégalais de dire que je critique la polygamie parce que je me suis occidentalisée, c'est leur hypocrisie à eux qui parle. J'étais contre la polygamie, j'avais 10 ans. J'étais au Sénégal. Je ne savais même pas qu'il y avait des pays où c'était illégal. Donc, il y a des révoltes qui nous habitent en tant qu'auteurs, qui viennent de loin. Il y a une forme de marginalité. Moi, quand j'étais au Sénégal, j'écrivais déjà des choses qui pouvaient choquer au Sénégal, mais qui me concernaient. Quand j'étais en ville, que j'avais 13 ans, j'écrivais des choses qui n'étaient pas destinées au public, mais qui remettaient parfois en question des réalités sociales. Et je pense que cette manière de procéder est restée. C'est peut-être les arguments qui changent ou qui s'améliorent, j'espère, pour vous en tout cas, pour ceux qui osent me lire. Peut-être qu'il y a une amélioration dans la réflexion, mais la raison fondamentale pour l'écriture, c'est ça. Une manière d'être à l'étroit à l'intérieur de soi et de ne pas être d'accord. Et d'accepter d'être parmi ceux qui ne peuvent pas changer le monde, mais qui s'autorisent le droit de déplorer. C'est facile de dire « on n'est pas d'accord ».
Oui, parce qu'on sent aussi, c'est pour ça que je parlais de guerrière, on sent de la colère aussi souvent. Mais de la colère, pas forcément pour culpabiliser un camp par rapport à un autre. Des fois, vous parliez de la polygamie, on sent que vous êtes intransigeante aussi contre la tradition qui peut entraîner ce malentendu dont je parlais, c'est-à-dire que la polygamie entraîne aussi beaucoup plus de bouches à nourrir que s'il n'y avait que un couple monogame, et du coup ça force à aller plus loin, chercher cette richesse et à ne pas écouter peut-être ceux qui reviennent, et aussi en même temps on sent de la colère contre le fait que la richesse de l'Afrique a été en quelque sorte pillée et que maintenant on laisse sans rien faire, donc à la fois des deux côtés. C'est pour ça que je disais que votre double identité en quelque sorte vous permettait de mettre en relief tout cela.
Oui, pour moi, c'est un miroir à double face. Je dis toujours, j'aime suffisamment la France pour quand j'ai envie de la critiquer, je ne me sens pas du tout en train de faire un crime de lèse-majesté. Donc moi, ma nationalité, je ne l'ai pas subie, c'est pas atavique, je l'ai choisie. Donc ça veut dire que j'ai un amour réel, affirmé et sans complexe vis-à-vis de ce pays. Et du coup, j'attends de cette nation le meilleur. Et quand je vois quelque chose qui ne correspond pas à ce que j'aime en elle, je lui dis, cette nation-là n'est pas celle qui m'a rendue folle d'elle. J'attends d'elle ça et ça, et je le dis, c'est aussi mon pays. Et le Sénégal, c'est aussi mon pays. J'ai gardé la double nationalité. J'aurais eu vraiment du mal si on m'avait demandé de choisir. J'espère qu'on ne me le demandera jamais. Mais je suis ravie d'avoir les deux parce que ça me permet à chaque fois de parler d'une société qui est totalement la mienne aussi. Quand je parle du Sénégal, je me sens en train de parler de quelque chose qui me concerne. Quand je parle de la France, ça me concerne. Mon livre d'avant parlait des maisons de retraite et de la vieillesse en Occident parce que je la vis aussi à Strasbourg. Et donc, le seul regret que j'ai parfois, c'est que quand je critique quelque chose du Sénégal, parce que c'est un reproche qu'on me fait et qui me blesse énormément, quand je critique quelque chose au Sénégal, souvent les gens que je vois dans les sites qui s'expriment, ils me reprochent d'être en France la petite... je suis blanchisée en gros, quoi. Et maintenant, je critique l'autre côté de l'Afrique parce que je n'en suis plus une. Mais de quel droit peuvent-ils imaginer que l'Afrique leur appartient plus à eux qu'à moi, par exemple? Et donc les choses que je dis de l'Afrique, ce n'est pas parce que l'Occident m'a lobotomisé, c'est parce que tout simplement l'Afrique aussi, avec ou sans la colonisation, aurait suivi son cheminement, sa progression, et donc ces générations successives auraient pu remettre en question des choses. Et c'est exactement ce qui se passe, Occident ou pas. La polygamie, je pense que nos mamans l'ont acceptée et que pour moi, c'est tout simplement inadmissible. Et je peux faire des arguments jusqu'à demain matin. Et toutes les raisons qui font qu'on est contre la polygamie, ce n'est pas une histoire d'amour stupide et égoïste. Ce n'est pas seulement ça. C'est qu'on ne peut pas pleurer la pauvreté en Afrique et prendre la liberté de faire un nombre déraisonnable d'enfants. Pour moi, aimer les enfants, ce n'est pas aligner les têtes à compter, oublier certains prénoms. C'est faire quelques enfants et se battre pour leur assurer une existence digne. Le nombre incalculable que favorise, enfin, le nombre d'enfants que favorise la polygamie est absolument contradictoire avec un désir de progrès et d'instruction et d'organisation de la famille en Afrique. Et je pense qu'il faut réagir contre ça. Française ou pas.
Et quand je parlais de la tradition, il y a aussi des choses très belles qui font partie de la tradition africaine, comme l'hospitalité, mais qui en même temps, toujours dans ce malentendu, entraînent aussi des situations très difficiles. Je pense à un livre que vous aviez écrit précédemment, Ketala, où Memoria, la femme dont vous décrivez la vie, finalement, c'est une vraie descente aux enfers, parce qu'on lui demande des mandats, parce qu'elle se sent redevable de cela. Et après, elle est rejetée par sa propre famille, parce qu'elle a fait des choses qui sont jugées licencieuses. Et donc, on est toujours dans ce malentendu. Et c'est pour ça que je disais que vos textes sont importants, parce qu'on arrive à pénétrer des choses que, par ailleurs, on laisserait en dehors de nous.
Vous savez, il y a un auteur, un romancier et cinéaste sénégalais maintenant décédé, Sembène Ousmane, qui était un grand ami, qui était un des tout premiers à me soutenir dès que mon premier recueil de nouvelles est sorti. Il était un des tout premiers à me féliciter. Et vous savez ce qu'il m'avait dit? Quand ils vont t'insulter, ça voudra dire que tu as des raisons de continuer. Et parce que lui, c'était un rebelle et moi, j'admire cet homme qui avait toujours le souci du petit peuple, le souci de l'Afrique profonde. Et Sembène Ousmane, c'est quelqu'un qui avait un respect, mais qui avait sacralisé la tradition africaine, mais qui me disait ceci. Aimer la culture africaine, aimer la tradition africaine, ce n'est pas fermer les yeux sur les maux qui la rongent. Aimer l'Afrique, c'est l'aimer suffisamment pour prendre les tares et les mettre à la poubelle. C'est-à-dire qu'il faut oser faire un tri dans notre tradition. Il y a des choses que j'ai envie de garder, mais alors il y a des choses que je mets à la poubelle, mais sans état d'âme. Et ça ne me gêne même pas. Je trouve ça tellement naturel de me débarrasser de certains carcans. Et là, la solidarité, c'est quelque chose qui est perverti. La solidarité traditionnelle, nous, c'est notre sécurité sociale là-bas. Je suis ravie d'appartenir aussi à cette Afrique qui sait partager, où on ne mange pas sans penser aux voisins, aux cousins, à la tante. Et ça, c'est admirable en Afrique. Mais je dis toujours qu'il n'y a pas de société idéale. Peut-être que l'Europe devrait apprendre un peu de cette solidarité africaine. Mais peut-être que l'Afrique aussi devrait apprendre de l'autonomie individuelle de l'Occident. Et il faut une ligne médiane. Parce que cette solidarité, quand elle est pervertie, ça donne une personne qui travaille et sans qui bouffe. Ce n'est plus du tout du partage, c'est de l'exploitation familiale. C'est une autre forme d'esclavage. C'est-à-dire qu'on ne s'appartient pas, on gagne sa vie et on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Parce qu'il y a tellement de dictats qui sont derrière, on va sauver sa peau en partageant pour être bien vu des autres. Eh bien, moi, je n'ai pas le complexe par moment de dire « Non, cet argent, je l'ai gagné, j'ai donné ça, ça, ça et ça, mais si je donne le coude, il ne faut pas me bouffer le bras. » Et l'Afrique n'ose pas souvent dire ça. Parce qu'on appartient d'abord au clan, à la famille, à la tribu, avant d'avoir une part de soi-même pour revendiquer un épanouissement personnel. Et surtout pour les femmes, on est tout entière à la disposition de la famille. Et ça, il faut à un moment donné réduire ce poids de la famille sur l'être humain. Pour moi, c'est une négation totale de la liberté individuelle. Donc entre tout prendre et tout interdire, il y a une ligne médiane, c'est-à-dire partager raisonnablement et être dans une liberté équilibrée. L'Europe m'a enseigné cela.
Alors à propos des femmes et des femmes dont vous décrivez les destins dans votre dernier livre, parce que je ne voudrais pas non plus que ceux qui ne vous ont pas encore lu pensent que ça n'est que de l'agressivité dans ce que vous écrivez. Au contraire, il y a aussi des
vacheries.
Non, il y a aussi beaucoup de beauté, beaucoup de lumière, je trouve. Et il y a un personnage lumineux, moi, je trouve, dans votre livre, c'est Aram. J'ai beaucoup aimé Aram. Et Aram, elle est à la fois mère, mais elle est aussi grand-mère. Mm. Et c'est pour vous aussi ce que vous appelez les vénérables phares. Donc, c'est quelqu'un qui, finalement, par sa force, en même temps que ses faiblesses, va permettre aussi à ceux qui sont partis de tenir.
Mm. Oui, parce que là, je parle de le territoire serrère, c'est une ethnie où la lignée est matriarcale. Donc, pour une fois, on donne la grande place aux dames, n'est-ce pas? Et donc, ce sont les femmes qui orientent vraiment l'histoire familiale. Ce sont elles qui sont responsables de l'éducation des enfants. Ce sont elles qui perpétuent les modèles. Donc, dès qu'il y en a une qui change de modèle, il y a l'évolution qui est possible. Et Aram, elle est là comme une lumière devant. Elle va prendre sa belle-fille sous son aile. Elle va infléchir la tradition pour permettre à cette jeune femme de vivre un amour épanoui avec son homme, indépendamment du jugement social. Et ça, c'est le plus difficile à faire en Afrique. La peur du jugement contraint les gens à se soumettre à la tradition. Parce que chaque fois, quitter la ligne, c'est avoir tout le monde contre soi. Et donc, c'est se sentir seul et abandonné. Et Aram, c'est vraiment la dame qui, par son histoire à elle, elle a subi. Elle sait l'injustice que cela représentait pour elle. Elle se bat pour que ce ne soit pas la même chose pour sa belle-fille.
Et donc, elle prend en charge à la fois les petits-enfants de son fils qui a disparu, mais aussi la petite-fille de cette belle-fille, voilà. Qui est une enfant illégitime, qui est ce que vous appelez les sans-baptême.
Oui, les sans-baptême, comme moi.
Et qui sont mis au banc de la société, marqués au fer rouge.
Oui.
Donc, je pense que vous avez voulu aussi concentrer dans Aram quelqu'un qui, justement, allait réparer un peu toutes ces blessures.
Oui, parce que, on dit, enfin, encore un cliché pour les touristes, ils disent que tous les enfants sont élevés par tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir une babysitter. Je vous garantis que quand votre naissance est illégitime en Afrique et que vous n'avez pas des proches pour veiller sur vous, vous êtes à moitié mort. Parce que vous avez les châtiments et tout le monde vous prend pour une espèce de chair maudite. C'était mon cas. Et donc, je sais vraiment de quoi je parle et ça ne fait pas plaisir aux Sénégalais quand je le dis. Mais moi, mes parents, ils avaient 18 ans. Ils m'ont eu. Ils étaient fous amoureux. Et les gens disent enfant illégitime. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, moi, je pense que tous les enfants sont légitimes parce qu'ils tapent à la porte de personne pour venir au monde. Donc, les adultes, qu'ils assument. Bon. Maintenant, une fois que l'enfant, il est là, et on lui reproche d'être né avant le salam alek de l'imam. Moi, j'y peux rien, moi. Alors, et je pense qu'il n'y a pas d'enfant illégitime. Et d'ailleurs, s'il devait y avoir des enfants illégitimes, ce seraient les enfants de mariage forcé. Parce que là, c'est une femme qui subit son homme et qui ne l'a pas désiré du tout. Moi, j'ai la chance formidable d'avoir une maman qui était redingue amoureuse et d'un papa qui pense que c'était la plus belle des princesses. Et pour une fois, elles ont fait ce qu'elles voulaient avant que la tradition ne s'en mêle. Oui, je l'ai payé au prix fort. On me l'a fait sentir toute ma vie, toute ma jeunesse. Et même maintenant encore, sur Sénéweb, il y en a qui me traitent de bâtarde. Sur le site internet sénégalais. Et la bâtarde est absolument ravie de revendiquer l'amour qu'elle porte dans sa chair. Et je n'aurai jamais de complexe de parler de ça. Moi, le problème est réglé. Et si j'en parle, c'est pour tous les autres derrière qui sont encore écrasés par ce genre de considération. Je trouve ça stupide en 2010 de reprocher à quelqu'un d'être né avant la cérémonie à l'église ou à la mosquée. Je trouve ça scandaleux. Et donc, souvent dans mes livres, je fais un personnage comme ça qui dit « Oui, moi aussi j'ai le droit de vivre ». Et c'est pour ça que la petite fille qui est née comme ça, Aram, elle va choyer cet enfant et on va voir son fils de retour d'Europe. Il va quand même continuer avec sa femme. Pourquoi ? Parce que lui aussi en Europe, il a eu des histoires. Et il rentre au Sénégal et il retrouve sa femme qui a eu une histoire et qui a un enfant. Et bien tout le monde s'attend à ce qu'il la répudie. Et là, c'est l'homme moderne qui est en route. Et il a dit à sa femme, mais si je devais avoir un enfant, toutes les fois où j'étais trompée en Europe, j'aurais ramené de quoi peupler ce village. Alors ton enfant, je vais l'adorer et le chérir si tu me le permets. Voilà. Pour moi, il y a une Afrique de demain qui est en marche avec des hommes modernes ouverts d'esprit.
Et alors justement, Aram, à un moment, il y a une scène où elle a peur que la belle-fille, elle-même de peur de voir revenir le mari... Et fait disparaître la petite fille, puisqu'elle la secoue, elle lui dit « Où est-ce que tu as mis la petite ?» Et en fait, elle l'a mis chez ses parents. Mais on sent qu'effectivement, il peut se passer des choses terribles du fait de ce poids de la tradition.
Parce qu'ils en passent souvent. Moi, je lis beaucoup les journaux africains, que ce soit le Sénégal, le Ghana. Je lis beaucoup de journaux comme ça pour m'informer. Mais oui, ça arrive de jeunes femmes qui attendent leur mari et qui ont une histoire, une aventure et qui tombent enceintes. Il y en a qui accouchent en secret, qui tuent les bébés. Et la presse africaine en parle très régulièrement. Donc j'ai voulu en parler dans le livre, c'est pas un de mes personnages qui le fait, mais je parle de ce qu'on entend à la radio. Plusieurs fois, les informations parlent de femmes qui ont abandonné leur enfant, de femmes qui ont tué leur bébé, ou des gens qui vont en prison parce qu'ils ont tenté de faire un avortement. Pourquoi ? Parce que le mari est à l'étranger et on tient à être intact à son retour. Or, il faut quand même ce qu'il faut à la chair. Pourtant, je vis comme une nonne, mais vous ne me croirez pas.
Alors, est-ce qu'il y a un personnage, à part Aram, que vous préférez plus que d'autres ou que vous détestez plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a que vous aimez créer pour détester?
Mais il y en a que je crée où on pense que c'est pour les détester, mais je les aime beaucoup. Koromak, c'est l'homme infect dans ce livre.
Il a quand même aussi un peu son moment de grâce.
Eh bien voilà, vous voyez, je n'arrive pas à les détester. Je ne crois pas à... un côté manichéen, totalement manichéen chez l'être humain. Je pense que même chez le pire d'entre nous, il y a une lumière possible. Et Koromak, c'est un homme qui répudie ses deux épouses parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est macho d'Africain, là. Si la dame, elle n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est forcément la faute de la dame. On n'a pas interrogé les compétences du mécontent, là. Et donc, il répudie ses deux épouses le même jour parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et puis, on lui trouve une petite jeune, ravissante. C'est comme ça qu'il va épouser Aram, qui doit lui faire donc les enfants. Sauf que monsieur n'y arrive pas. Et Aram, elle a retrouvé son amour de jeunesse et puis elle a réussi à faire deux fils. Sauf que les deux fils sont trop clairs de peau. Et ils ressemblent à son amour de jeunesse et pas à son mari. Et ça devient sa croix et la chronique sociale du village. Il est content parce qu'il a deux fils, mais en même temps, il sait que ce ne sont pas ses fils à lui, qu'il a donc partagé sa femme. Et il est odieux. Pendant tout le livre, il est odieux. Mais quand on a parlé de la pirogue de l'immigration clandestine, le jour où il s'est inquiété, est-ce que la pirogue a fait naufrage ou est-ce qu'elle est arrivée en Espagne ? Là, il s'est rendu compte qu'il tenait vraiment à son fils. Et là, il devient gentil et il a envie d'être doux avec sa femme. C'est son seul moment de douceur dans le livre. Donc même mes personnages qui sont mauvais, il y a quelque chose que j'aime chez eux, c'est leur faiblesse humaine possible.
Et là, et des fois, votre page où la colère, on sent la colère en fait, il y a aussi beaucoup d'humour, par exemple, ce que vous appelez les amoureux de l'Afrique, comme la femme en porcelaine.
Madame, la dame de porcelaine.
Voilà, d'un autre fils qui est parti, Issa, et qui revient donc avec une occidentale, et qui passe son temps à s'extasier surtout en faisant waouh, waouh. Donc vous la décrivez avec beaucoup de cruauté un peu, mais beaucoup d'humour.
Oui, même une poule qui lève une patte, elle trouve ça génial. Donc oui, elle photographie tout, les ânes, les vaches, les moutons, même le cimetière est très excitant pour elle. Donc oui, les touristes là, c'est scandaleux de les voir parfois en Afrique, quoi. C'est fini la colonisation. Et en plus, à Dakar, c'est pareil qu'un mini Paris. Franchement, je ne vois pas pourquoi s'extasier autant quand on est en Afrique. Il faut être dans un comportement normal pour qu'il y ait un dialogue possible. Et quand les gens se comportent comme s'ils débarquaient de Mars, nous aussi, on ne sait pas comment nous comporter avec... Enfin, je ne sais pas quoi, si vous avez trouvé une poule excitante parce qu'elle lève une patte. Enfin, on les voit, les poules en Alsace. Et donc, il y a vraiment des choses très basiques dans le comportement des touristes qui, parfois, c'est très choquant parce qu'ils visitent vraiment comme l'exposition universelle. La meilleure manière de respecter l'autre, c'est d'avoir une apparence de normalité dans le rapport qu'on a avec... Mais quand on arrive à « Ah, c'est l'Afrique !» Non, mais ce n'est plus un truc de troglodyte. On n'est plus aussi épaté que ça en Afrique. Il y a des téléphones portables, Internet, des 4x4 climatisés. Donc voilà, c'est la même chose que je vois derrière Oberhausbergen, là-bas, à Strasbourg. Et donc, cette dame de porcelaine, c'est la dame qui a épousé l'immigré. Parce que figurez-vous qu'il y a une nouvelle race de dames européennes qui trouve que la polygamie, ce n'est pas si terrible que ça. Et j'en ai rencontré, c'est pour ça que j'ai mis ça dans le livre. J'en ai rencontré en Suisse, en Allemagne et même à Bordeaux quand j'étais venue au Salon du Livre. Et après, cette dame, dans ma rencontre à Bordeaux, elle m'a engueulée comme quoi j'étais contre ma culture. Vous critiquez la polygamie parce que vous êtes complexée, vous n'acceptez plus votre culture africaine. Et je dis, excusez-moi madame, mais Simone de Beauvoir n'est pas née à Ouagadougou. J'ai appris ça de chez vous, qu'il y avait un droit pour les femmes, qu'il y avait un respect possible pour les femmes. Et vous qui avez la chance d'être instruite, d'avoir la liberté de choisir votre vie, vous venez accepter la polygamie et dire aux Africaines qui, elles, n'en peuvent plus de supporter ça, vous leur dites que ce n'est pas grave. Et moi, je trouve que là, il y a un manque de solidarité féminine. Ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on ne doit pas se soucier de la condition féminine en Afrique. Et maintenant, il y a quand même des femmes qui acceptent ça parce que, je vais vous expliquer, elles se payent leur petit mari africain comme un sac Prada. Et j'assume ce que je dis. C'est-à-dire que vous avez une dame qui va épouser un garçon qui a l'âge de son petit-fils. Ce garçon, ce n'est pas de l'amour. C'est juste qu'il veut un toit en Europe et des papiers si possible. Et donc, où est l'amour dans ça? Pour moi, il n'y a pas d'amour. Et ensuite, ils partent en vacances au Sénégal une fois. Par an. Donc ça veut dire que cette dame qui se croit co-épouse et partageant, qui est très tolérante, n'est-ce pas, pour la polygamie, en fait, elle a son mari 11 mois sur 12. Moi aussi, je veux bien partager comme ça. Hein. 11 mois sur 12. Donc voilà, elle va prêter son mari comme une location saisonnière. Et quand ils arrivent au Sénégal, c'est la petite Africaine qui va au puits pour chercher l'eau, qui cuisine, qui fait le linge, pendant que madame, la touriste co-épouse, profite des amours de monsieur et des balades tranquilles. Je trouve ça profondément injuste, il fallait que je le dise.
Mais en fait, dans tous vos livres, vous redonnez de... Enfin, il est question de noblesse, de dignité, à juste titre, de fierté, et c'est pour ça qu'il faut vous lire, je crois, aussi.
Mais...
Parce que ça n'est pas que, voilà, comme je disais, de la revendication, mais c'est pour ça que je parlais de combat et de guerrière au début, parce qu'on vous sent vraiment investi, ce qui est normal, dans ce que vous avez à dire sur vos deux identités, je dirais, sur leur face-à-face.
Oui, pas la noblesse au sens les rois de France ou mes ancêtres guélois, hein. Parce que moi, chez les Serrères guélois, on était sanguinaires depuis des siècles. Hein, donc je sais, j'ai même honte de le revendiquer, je le cache. Hein. Mais je suis une authentique Serrère. Et chez nous, on dit, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Et dans l'histoire de France, j'ai trouvé ce genre de devise aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire? On peut être noble en étant absolument pauvre et totalement pauvre. Moi, je n'étais qu'une femme de ménage à Strasbourg pendant 6 ans. Et il fallait me voir quand j'allais à la fac. Plus fière, tu meurs. Parce que j'adorais aller à la fac, remplir ma tête de quelque chose. Et je savais que je payais mon loyer sans baisser la tête, que je ne devais rien à personne. Et si je ne mangeais pas, j'étais quand même fière parce que je n'ai pas dérangé qui que ce soit pour demander une baguette de pain. Mon ventre, il peut être vide, mais je suis comme ça. Parce que je sais que je suis réglo avec moi-même et avec les autres et je ne dois rien à personne. Donc, je regarde qui je veux droit dans les yeux, avec respect. Mais moi, le respect, je ne le demande pas, je l'exige. Et en fait, on peut l'exiger. Parce que si on respecte les autres, on les met dans l'obligation de vous le rendre. Tout simplement. Et c'est cette noblesse-là que je demande pour ces dames qui sont pauvres, certes, mais qui ont une certaine dignité dans leur comportement de tous les jours. Ça, c'est ma grand-mère qui parlait. Elle m'a miné la tête.
Voilà, mais écoutez, on va vous remercier en tout cas beaucoup. Vous avez dit aussi que partout où vous posiez vos valises, vous étiez chez vous. Alors j'espère que vous êtes senti un peu chez vous. Dans ce petit bout d'Atlantique.
Il reste 3 minutes de torture. Et même si je rate l'avion, hein, je ne sais pas quelle heure il est. Je termine toujours avec une récitation. Et je vais vous la faire. Et c'est toujours la même. Donc s'il y en a qui m'ont déjà vu, désolée, bis repetita pour la torture. Normalement, je suis debout pour le faire mieux. C'est sur l'identité, justement. Chez moi ou chez l'autre ? Être hybride, l'Afrique et l'Europe se demandent, perplexes, quel bout de moi leur appartient. Je suis l'enfant présenté au sabre du roi Salomon pour le juste partage. Exilé en permanence, je passe mes nuits à souder les rails qui mènent à l'identité. L'écriture est la cire chaude que je coule entre les sillons creusés par les bâtisseurs de cloisons des deux bords. Je suis cette kéloïde qui pousse là où les hommes, en traçant leurs frontières, ont blessé la terre de Dieu. Lorsque las d'être plongé dans l'opaque repos nocturne, les pupilles désirent enfin les nuances du jour. Le soleil se lève inlassablement sur des couleurs volées à la douceur de l'art pour borner le monde. Le premier qui a dit « Celles-ci sont mes couleurs » à transformer l'arc-en-ciel en bombe atomique et ranger les peuples en armée. Vert, jaune, rouge, drapeau français, ou bleu, blanc, rouge, le mélange des deux. Je préfère le mauve, évidemment, cette couleur tempérée, mélange de la rouge chaleur africaine et du froid bleu européen. Qu'est-ce qui fait la beauté du mauve ? Le bleu ou le rouge? Et puis, à quoi sert-il de s'en enquérir si le mauve vous va bien? Le bleu et le rouge, les chiens et les loups, je les ai dans la tête, je les emporte partout avec moi. Où qu'on aille, il y aura toujours des chiens et des loups. Ce n'est pas une question de frontières. Je cherche mon pays, là où on apprécie l'être additionné, sans dissocier ses multiples strates. Je cherche mon pays, là où les bras de l'Atlantique fusionnent pour donner l'encre mauve qui dit l'incandescence et la douceur, la brûlure d'exister et la joie de vivre. Je cherche mon territoire sur une page blanche, un carnet, ça tient dans un sac de voyage. Alors, partout où je pose mes valises, je suis chez moi, comme ce soir, à Bordeaux. Aucun filet ne saura empêcher les algues de l'Atlantique de voguer et de tirer leur saveur des eaux qu'elles traversent. Racler, balayer les fonds marins, tremper dans l'encre de sèche, écrire la vie sur la crête des vagues, laisser souffler le vent qui chante mon peuple marin. L'océan ne berce que ceux qui l'appellent. J'ignore l'amarrage. Le départ est le seul horizon offert à ceux qui cherchent les 1000 écrins où le destin cache les solutions de ces 1000 erreurs. Dans le rugissement des pagaies, quand ma mamie-maman murmure, j'entends la mère déclamer son ode aux enfants tombés du bastingage. Partir, vivre libre et mourir comme une algue de l'Atlantique. Je vous remercie.